Nous continuons à Amos. Est-ce que vous avez la page de Amos ou page chapitre 8? Vous l'avez?
703.
Page de 703. Voici les verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. Un séjour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Vous voyez, c'est la description d'une période spirituellement déserte. Et d'une grande soif. Une grande soif, c'est une génération qui ne trouve rien parce que leur prédécesseur n'a rien laissé. N'a rien laissé de Dieu, n'a rien laissé de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Tout le programme de nos sociétés civiles est d'éradiquer tous les liens avec la foi juive et chrétienne. Et tout raser sous prétexte, laïcité s'impose, sous prétexte qu'on va avoir la paix sociale, on ne trouvera personne. Bon, or, c'est une grave erreur. L'ennemi qui sème le trouble, c'est le péché. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Et j'ai déjà fait des conférences publiques concernant le djihadisme, l'islam, etc. Et j'ai montré à travers les textes de la Bible que les mêmes saccages, les mêmes frénésies sanglantes existaient avant l'islam. Et avant le christianisme. Et le communisme qui était contre la foi chrétienne durant 70 années, 70 années, en Russie et dans tous les pays satellites, qui a éradiqué la foi, a été aussi horrible dans ses excès que dans les pays où il y a une religion. L'ennemi n'est pas l'athéisme ou telle ou telle religion. C'est à la racine, c'est le péché qui est dans l'homme. La puissance du péché. Ok ? Qui prend une figure suivant les religions, suivant les sociétés, mais qui est toujours là. Alors, quand cette société qui arrive à son terme, parce qu'elle a cru trouver la solution en disant on ne parlera plus de Jésus ni de Dieu, le péché existe toujours, Satan existe toujours. Donc, finalement, il y a un désert spirituel total, et voilà ce qui est décrit ici dans Amos au chapitre 8. Les beaux jeunes gens, les belles jeunes filles mourront de soif. Non pas de pain, non pas d'eau, mais des paroles de l'Éternel. Ils voudront se tourner vers Dieu et ils ne vont jamais trouver quelqu'un pour leur en parler. Ok ? Est-ce que c'est dans la période de tribulation, les 7 années, quand l'Église, elle, est enlevée, n'est plus là, et que c'est un désastre total, et que là, il y a une soif totale, une grande soif qui se réveille? Ou est-ce que c'est déjà avant les tribulations qu'il y a une soif? Moi, je pense qu'il y a toujours des gens qui ont soif, puisque nous, rien que dans notre cas, sur le site, on voit qu'il y a des demandes. Donc, voyons bien que c'est un problème qui va devenir majeur, c'est la stérilité spirituelle. Et c'est de l'autre côté un immense besoin de Dieu qui ne va pas trouver écho. C'est peut-être une grande torture qu'attend la génération de nos enfants de voir un monde où il n'y a rien pour Dieu. Une grande torture. C'est peut-être la pire. Et d'où les drogues, d'où les médicaments, d'où toutes les distractions avec les tablettes, les ordinateurs, les téléphones. Regardez sur les trottoirs, vous pouvez regarder les gens sur les trottoirs, hein. Si vous circulez en voiture ou à pied, un tiers de la population trimballe son chien. Il ne saura pas aller promener sinon pas le chien au bout de... L'autre, c'est quoi? Le téléphone. Et le troisième, c'est quoi?
Les écouteurs.
Oui, les écouteurs avec la petite musique et tout le bazar. Alors, c'est quoi? C'est pour mettre de la crème sur une peau qui est crevassée. C'est pour mettre de l'huile sur un cancer, de la peau, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut être très bien dans sa peau, en marchant, en allant en vélo, sans tout ça. Il y a un gros problème. Une immense angoisse qui se cache derrière tout seul. Et comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de grosses voitures? Le chic du chic, pour tous les jeunes couples, et même pour les vieux couples, c'est d'avoir soit une BMW, c'est un médaillon blanc et bleu. Hein? BMW, Bayerischer Motorwagen. Hein? Ou alors, c'est quoi? Les 4 anneaux, Audi. Ou c'est quoi? Volkswagen, mais pas le petit modèle. Hein? C'est quoi d'autre? Ou Volvo. Quand on tire ça, bon, après, il y a les marques françaises, italiennes, etc. Bon, mais il y a des gros modèles aussi dans ces firmes-là. Et aussi, il y a des gens qui veulent être au même niveau que les autres de BMW, Volvo, etc. On voit, et pourquoi? À force de les regarder et d'observer tout ça, je me dis une chose. Ce sont tous des gens qui cachent leur angoisse, leur insécurité, qui mettent leur sécurité et leur apparente paix dans des biens matériels qui ne vont pas durer. Et dès qu'il y a une maladie, dès qu'il y a une anicroche, un croc en jambe, ils ne sont plus rien du tout. Il faut le psychologue, le psychiatre, etc. Il faut les médicaments, il faut tout. Il y a un grand vernis de sécurité que cette génération, la mienne et celle qui me précède, ont laissé aux jeunes, et les jeunes se trouvent devant un grand désert. Et énormément de gens sont tentés par le suicide, par le désespoir. Mais il y a aussi toute une série de personnes, et je pense qu'ils vont être de plus en plus nombreux, à chercher Dieu. Pour le moment, il y a encore une période, je dirais un petit peu malheureuse, c'est qu'on va voir les médiums, les cartomanciens, les astrologues, il y en a plein à TV. Dans chaque village de notre région, il y en a maintenant. Pour le moment, c'est encore le mensonge du diable, qui prend pour un certain temps. Il est venu dans la semaine une dame qui nous raconte que sa fille qui a 34 ans va voir les voyants et tout, et a des problèmes psychologiques, mais qui n'en a pas. Quand on veut les grossir, on peut les grossir, hein, et ne regarder que ça. Qui n'en a pas. Et pratiquement, on lui a demandé, elle a dépensé beaucoup d'argent. Oui, elle a au moins dépensé le prix d'une nouvelle maison. Ça marche bien le business de la voyance, de l'astrologie et du mensonge de Satan. Ça s'appelle de l'abomination dans la Bible, tout ce domaine-là. Nous voyons que dans Amos, il est annoncé une grande souffrance spirituelle et qu'il n'est pas nécessaire de se dire « ils vont tous se convertir ». Ce n'est pas vrai. Ils ne vont pas tous se convertir. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on a besoin de Dieu qu'on se convertit. Rappelez-vous que Jésus, dans Matthieu et dans Luc, il dit « Dieu leur a bouché les oreilles, les yeux, de peur qu'ils ne voient, de peur qu'ils n'entendent. Pourquoi ? De peur qu'ils ne se convertissent, qu'ils ne se repentent. » Donc parfois Dieu n'a même pas l'envie de voir quelqu'un se repentir et se convertir. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir apaiser son problème personnel et jamais faire la volonté de Dieu, jamais être conduit par le Saint-Esprit. C'est de l'imposture. Dieu ne s'y trompe pas sur l'état de nos cœurs et de nos désirs. Les désirs ne suffisent pas pour être convertis. Les besoins ne suffisent pas. Alors, regardons dans Jérémie, chapitre 13, verset 11. Jérémie. Les prophètes qui parlaient à cette époque-là, comme Amos, Osée, Agée, Joël, ils le savaient, ça, ils ne se trompaient pas là-dessus. C'est pour ça qu'en général, on les tabassait, on les enfermait, on les tuait. Parce que ils ne se contentaient pas de venir parler de Dieu, et puis ça y est, la pommade était mise, tout le monde était content. Non, eux, ils demandaient une réelle conversion, une réelle repentance. Alors là, les amis, ça c'est différent. Chapitre 13, verset 11. Tu as autant de dieux que de villes au Juda, autant. Jérusalem a deux rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pas pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Vous imaginez ? N'intercède pas en faveur de ce peuple. Combien de fois de gens m'ont dit, Vous prierez bien pour moi, pour ma femme. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça correspond à ça. Si réellement quelqu'un veut rencontrer Dieu, qu'il le prie lui-même, de manière responsable, en sachant qu'il va devoir remettre tout en question. Vous voyez? Et donc, il y avait tellement de statues, il y avait tellement d'endroits pour où vous venir prier, l'intercesseur, etc. Aujourd'hui, on peut encore retomber dans des collectivités ou des communautés religieuses où on va prier tout le temps pour les autres, prier tout le temps, intercéder, etc., faire des louanges. Mais ceux qui viennent pour le demander ne veulent pas changer leur vie, leur cœur. Eh bien, regardez ce que Dieu fait. Niet, je n'écoute pas ça. Il ne faut pas s'y tromper. Un prophète n'est pas là pour plaire. Il est là pour poser un ultimatum. L'ultimatum de la vérité. Comme Jésus l'a fait quand il a dit « Le temps est venu d'avoir des adorateurs en esprit en vérité. » Il y a un temps où on n'adorera plus à Jérusalem ni nulle part. Le temps des adorateurs en esprit en vérité. Un peu plus loin, il dit encore, dans Jean chapitre 6, « La chair ne sert de rien. » C'est l'esprit qui vivifie. Mais l'esprit saint qui donne la vie. Pour ça, il faut se laisser conduire. Réellement conduire. Il faut donner sa vie à Dieu. Vous voyez, donc, les prophètes, tout comme Jésus, ont clairement donné un son de trompette pour un vrai repentir, une vraie repentance et une conversion réelle. Ce qui n'est pas si simple que ça, les amis. Quand Billy Graham avait des tas de foules là, qui se présentaient donner leur vie à Jésus, en fin de carrière, on lui demandait combien, dans tous ces milliers de gens-là qui s'étaient présentés, qui s'étaient levés, qui avaient la main, combien étaient convertis. Eh bien, il a dit 5%. Là, Dieu leur dira avant, vous allez lever la main à 100, il n'y en aura que 5% parmi vous de sauvés. Pourquoi? Mais pour que les autres aient peur en rentrant, ne soient pas autosatisfaits, qu'ils n'aient pas eu un sentiment d'élévation, de jouissance, de bien-être intérieur. Ça, il y a des gourous pour ça, il y a des médiums, il y a une bonne cuite, une bonne tamponne, cannabis, on fait ça. Donc les prédicateurs cannabis, pas besoin. Jérémie n'est pas, ni Amos, un prédicateur cannabis. Regardons aussi dans Jérémie, au chapitre 35, verset 19. Jérémie. Chapitre 35, verset 19. Je vais commencer au verset 18, j'expliquerai après. Jérémie 35, 18. Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. C'était une tribu dont le patriarche avait demandé de ne pas habiter dans une maison dure, mais d'habiter sous tente, à côté des villages, des villes, et de ne pas boire, de ne pas être des consommateurs, des grands consommateurs de tous les biens qu'on trouvait dans les villages et les villes, surtout de ne pas boire d'alcool. Et cette tribu avait gardé la fidélité à cet enseignement. Tandis que dans tous les autres villages, les villes, on était corrompus, on faisait n'importe quoi. Et quand Jérémie a parlé, il a dit, mais vous, on vous retrouvera. Israël sera dispersé dans toutes les nations, il reviendra voir sur la terre, mais vous, vous serez toujours en présence de Dieu. Parce que quand vous prenez un engagement, vous le prenez sérieusement. Et cette tribu qu'on n'a encore jamais retrouvée, est-ce que ce ne sont pas les Tziganes? Est-ce que ce ne sont pas les descendants actuellement, les Tziganes, qui ont voyagé, cette tribu. C'est quand même bizarre que Hitler les a mis au four avec les juifs et les chrétiens, qui s'est acharné sur eux. Donc, c'est assez bizarre qu'il y a toujours un ostracisme, une espèce de haine sur ces gens, comme un peu sur les juifs. Alors qu'il n'y a pas de connotation historique, apparemment. Hein? Et c'est quand même bizarre qu'un pasteur avec sa fille, il y a de ça 60 ans, achète un vieux château et invite toutes les caravanes à venir, et ils viennent à des milliers, il annonce l'évangile, et il y a des dizaines de milliers de tziganes convertis. À la fin des temps, on a dit qu'Israël viendrait à l'évangile. Les vrais juifs messianiques sont nombreux, et chez les tziganes, de nombreux gens, personnes, sont devenus chrétiens évangéliques. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette tribu de Réka, parce que c'est eux ou pas, peu importe, mais nous voyons bien que quand Dieu parle par un prophète, il parle sérieusement avec autorité. Et il s'est repéré dans une immense foule qui fait de la religion, il s'est repéré des gens sérieux qui tiennent une responsabilité dans leur vie, qui tiennent un engagement. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris ce passage. Est-ce que vous êtes désireux de tenir un engagement sérieux dans votre vie, quel que soit votre entourage, quels que soient les faux dieux qui sont autour de vous, quels que soient les messages religieux qu'on vous donne qui peuvent vous tromper? Le sentiment de craindre Dieu, d'être responsable d'un vrai comportement tel que Dieu le demande, est nécessaire. Alors, qu'est-ce que Dieu va promettre à ces gens qui n'ont pas, prenons Ézéchiel 36, vous allez voir, finalement, à travers Israël, surtout d'abord, est-ce que c'est ces prophètes-là visent Israël, mais après, à travers toutes les nations, ce désert spirituel n'est pas le dernier mot de Dieu. Cette grande souffrance spirituelle n'est pas la dernière situation, ce serait désespérant. La vraie situation repose sur une promesse de Dieu. Donc, Ézéchiel 36, verset 22. C'est pourquoi, vous avez la page ?
662.
C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Vous imaginez. Dieu est sérieux, lui. Il a son honneur, sa sainteté, sa grandeur, sa beauté, sa vérité, sa pureté. Il est sérieux. Rien ne corrompt. Ben, mes enfants font n'importe quoi, c'est pas pour ça que je vais faire n'importe quoi. Mes petits-enfants font n'importe quoi, ben, c'est pas pour ça que je le ferai. Je reste digne, je reste saint, je suis Dieu. Et c'est ça. Alors, regardez bien, verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Donc, dans la descendance, plus loin, vous me sanctifierez. Vous allez avoir un comportement saint digne de moi. Mais à ce que je vois, tout ce que je vois et tout ce que je verrai encore tout un temps, ne sera jamais saint, sera toujours souillé. Ça ne m'arrêtera pas. À un moment donné, il y a une étape où, dans vos descendants, je serai sanctifié. Ça, c'est la volonté même de Dieu. Et c'est la volonté de donner la grâce sur des gens qui ne le méritent pas. La grâce du salut. La grâce aussi de la sainteté. Pourquoi ? À cause du nom. Dieu, à cause de son nom, de sa sainteté, ne peut pas laisser la victoire à Satan et au mensonge, au péché. Je vous retirerai d'entre les nations, verset 24. Je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Nous voyons là que Dieu dit clairement qu'il a tout pouvoir en matière de salut. Et que l'homme n'a aucune capacité en matière de salut. Ok ? Ça, naturellement, ça c'est du langage protestant, c'est du langage biblique. Si vous prenez, je crois que le protestantisme est en train de s'édulcorer avec le communisme et tout ça, mais pratiquement, il n'y a pas d'œuvre de salut par l'homme. C'est une grâce qui vient de Dieu, de sa sainteté, de son décret, de sa volonté, de son action. Et s'il a envoyé des prophètes, c'est pour ramener l'homme à son point de départ, la sainteté à laquelle il a renoncé avec Adam et Ève. Donc, le prophète, d'une manière générale, est un prédicateur de la conversion, de la condamnation du péché. C'est ça qu'il faut savoir pour Amos, comme pour Jérémie et d'autres. Alors, s'il y a une grande souffrance spirituelle d'un tas de descendants, aux jeunes gens et aux jeunes filles, dans chapitre 8, regardons dans chapitre 9, verset 3, Amos. Chapitre 9, verset 3. S'il se cache au sommet du Carmel, je les y chercherai, je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents des morts. S'ils vont en captivité devant leur ennemi, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre. Elle tremble et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve. Elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux, fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer, il les répand sur la terre. L'Éternel est son nom. On voit ici une déclaration qui est terrible. C'est que Dieu est capable de détruire. Comme à l'époque de Noé. Comme à l'époque de Noé. Et vous voyez que il y a une annonce pour un temps de châtiment à la fin des tribulations, à la fin des tribulations sur l'humanité qui a été rebelle contre Dieu. Malgré tous les prophètes, malgré toutes les tentatives de Dieu, avec Jésus-Christ, avec certaines églises, en tout cas les églises, de les amener à la conversion. Il y a un grand fléau et on ne peut pas dire que Dieu fait toujours des cadeaux. Parfois, il agit durement. Et bon, je ne vais pas dire que je me plais à entendre ça. Et je ne dis pas que c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Sachant bien qu'un enfant de Dieu ne connaîtra pas ça. Mais ça existe. Et vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, parfois dans les conversations avec des gens, je suis au champ, je suis tout seul, il y a des personnes qui s'approchent. Ou en visite. Maintenant, de plus en plus, il y a des gens qui disent « ça va tourner mal ». On s'est moqué de Dieu et il va nous punir. Donc il y a un sentiment, même qu'ils ne sont pas chrétiens, un sentiment, une connaissance de quelque chose, d'une autorité qu'on a bafouée, qu'on a offensée. Ben, peut-être que ça va ramener des personnes à se convertir. Je ne dis pas, non, je vais passer de la pommade, non, je dis, bon, écoutez, cherchez Dieu tant que vous pouvez encore le faire, tandis qu'il est proche, et sa main n'est pas trop courte pour vous sauver, voilà. Sa main n'est pas trop courte pour vous sauver. Et Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 65, verset 1, je me suis laissé trouver par plusieurs qui ne me cherchaient pas. Je leur ai dit, me voici, me voici. Donc, mais il ne faut pas adoucir le problème de la personne. Ne changez pas l'amertume en douceur. Ça ne sert à rien. S'il y a quelque chose qui réveille la personne, si elle est fatiguée d'elle-même, la personne, elle pourra venir à Jésus et dire, et entente, viens à moi, car je suis doux homme de cœur. Viens déposer ton fardeau près de moi. Je le porterai à ta place. Ça, c'est Jésus. Mais il faut être fatigué de soi-même. comme une société peut être fatiguée, lassée d'elle-même. À part les beaux parleurs pour les campagnes électorales, la société, je pense aujourd'hui, est fatiguée d'elle-même. Elle ne sait plus quoi faire pour retrouver l'élan et l'allant. Eh bien, si elle est fatiguée d'elle-même, peut-être qu'elle va dire, réponds à ce que Jésus a dit, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau. Quand on est vraiment fatigué de soi-même, on finit par ne plus compter sur soi et on finit par rechercher l'aide de Dieu, le secours divin. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'on est au bénéfice d'un grand changement. Peut-être pas total, mais d'un grand changement. Et il ne faut pas négliger les temps. Si des âmes peuvent être sauvées, il faut être là et leur parler en disant que Dieu miséricordieux, lent à la colère, compatissant. Dans la prière cette semaine, plusieurs fois, j'ai fait le bilan, j'étais malade, le bilan de ma vie, mais combien de choses que j'aurais pas dû faire. Et je demandais pardon à Dieu, et pratiquement, j'ai dit à Dieu, tu es un Dieu lent à la colère, plein de compassion, compatissant. Merci Seigneur. C'est pas pour ça que j'ai raison, il faut que je recommence. Et que je fasse l'idiot. C'était avec un véritable sentiment de repentance et d'amour, de reconnaissance pour la patience de Dieu à mon égard, pour que je change encore et toujours. Amos, chapitre 7, versets 8 et 9. Amos, chapitre 7, versets 8 et 9. L'Éternel me dit, Amos, que vois-tu ? Je répondis, je vois un niveau. Vous savez ce que c'est qu'un niveau de maçon, hein ? Avec la bulle, là. Pour voir si le mur est droit ou d'aplomb. Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Donc, on voit que il va détruire tous les symboles religieux de Bethel, de Gilgal, de Jérusalem. Il va tout détruire, toute capacité à se retourner vers la religiosité et vers un comportement hypocrite. Un comportement qui se base sur la beauté des murs, des statues, etc. La grandeur des champs et tout. Pourquoi ? Pour retourner au fond de notre cœur vers Dieu. Retourner au fond à Dieu lui-même. Eh bien, le fait que cet homme dise ça, Amos, il y a un homme, un prêtre, qui vient dire au roi, Amos conspire, verset 10, contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Nous voyons bien, c'est un prêtre, que le sacerdoce va être retiré à Israël. Il n'y a plus de prêtres. Il n'y a plus de temple. Parce que le sacerdoce et les prêtres, y compris en Occident aujourd'hui, sont un des outils d'égarement privilégiés de l'ennemi. Les prophètes qui ont une culotte de dire ces choses-là, ça leur a coûté cher, les amis, hein. Vous lisez Hébreux chapitre 11 et vous voyez que certains ont été torturés, sciés, lapidés, etc. Lisez chapitre 11. Et donc, il y a quand même une hostilité, une haine à la vérité, envers la vérité. Le prophète était quand même quelqu'un qui n'était pas dans le velours. Pratiquement, j'honore de telles personnes. Je les honore et quand je vois Jean-Baptiste qui se fait couper la tête par Hérode, rien que pour les caprices de la fille d'Hérodiade, Hérode a dit, il faut que le grain de blé soit posé en terre, meure, hein, et que l'autre pousse. C'était Jésus. Il était au service de Dieu. Alors, j'en ai fini. Jean-Baptiste, oui. Et j'ai dit quoi ? Ah, excusez-moi, la grippe. J'en finis avec Amos. Lisez-le, relisez-le, c'est la meilleure façon. Quelqu'un au matin me parlait, oh, je suis en train de lire quelque chose dans la Bible, oh, il faut que je le relise, il faut que je recommence. Et j'ai dit, moi je l'ai lu 6 fois, l'Épître aux Éphésiens, je l'ai lu 6 fois une fois d'affilée, pour arriver à comprendre certaines phrases. Et encore, je continuerai toute ma vie à les lire pour les comprendre. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole divine qui tombe dans un terrain impur, dans un terrain de sourd, d'aveugle. C'est moi. Et il faut que ça perce la croûte. Il faut que ça perce la croûte, la parole de Dieu. Il faut la laisser faire. Hein? Alors maintenant, je voudrais aller plus globalement. Parce qu'il y a d'autres prophètes qu'on va voir, Abdias, dimanche prochain, etc. Pourquoi les prophètes? Pourquoi le mal est-il dénoncé par les prophètes? Et pourquoi le mal résiste-t-il aux prophètes? Quel est donc le dessein éternel de Dieu en envoyant les prophètes? Sachant tout d'abord que l'homme a été créé parfait. Il était béni. Le but de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu. Et c'est de partager la vie de gloire de Dieu. Premier point extrêmement important. C'est toujours la pensée de Dieu aujourd'hui et ça s'accomplira. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas. Nous sommes héritiers d'un projet de gloire incommensurable. Et les amis, il faut savoir l'importance de l'héritage que nous avons. L'importance. Il ne faut pas négliger les promesses. Il ne faut pas être un chrétien superficiel. L'immense gloire de Dieu et de sa grâce. Lisez le chapitre 1 d'Éphésiens. Hein? Vous allez voir que les yeux de mon cœur soient illuminés, de mon âme, afin de voir la gloire de sa grâce. Allons plus loin que le quotidien, la banalisation de tous les jours, le ronron qui nous ronge et qui fait que notre âme se dépérit. Les amis, et notre corps s'abîme. Le deuxième point, c'est que l'homme, bien que parfait, a été dupé par Satan, a été séduit par le menteur spirituel. Ça, c'est un deuxième point très important. Mais avec son accord, avec son accord. Si l'homme est pécheur, parce qu'il a été séduit, il est tout de même coupable. C'est lui qui a dit oui. Le diable n'avait pas de moyen de l'obliger à dire oui. Pour Ève comme pour Adam. Donc l'homme a perdu tout amour et toute connaissance de Dieu. Et il a aussi perdu toute liberté spirituelle de garder sa vie dans le beau, dans le vrai, dans la sainteté, hein, dans le bon. Il a perdu toute capacité de rester sur ce terrain-là. Et la révolte a donné quelque chose, un caractère rebelle à l'homme. Un caractère rebelle. Que magnifie actuellement notre civilisation. Avant, jusqu'il y a peu, il y a 50-60 ans, on culpabilisait ce côté rebelle. Parce qu'il y a encore l'empreinte, l'imprégnation du christianisme par des lois, peut-être mal comprises, de la Bible. On avait une culpabilité, donc on était freiné. Mais maintenant, on n'est plus freiné. Les digues sont rompues.
La mort était plus présente aussi. La mort était plus présente.
Mmh. Alors, il s'est développé à travers l'homme une attitude d'inimitié envers Dieu. Dieu n'est plus notre ami. On le craint. Au cas où il arriverait quelque chose, on va faire baptiser notre gosse. Au cas où on va aller mettre une bougie. Au cas où on va mettre un bouquet de fleurs devant la statue. Au cas où on va faire un pèlerinage. Au cas où on va mettre des sous dans le tronc. Hein? Au cas où on va faire venir le curé pour faire l'extrême onction. Hein? Ou on va, au cas où on va donner un champ, de l'argent, et comme ça, à travers toute la religion. Mais c'est une attitude d'inimitié contre Dieu, tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'amour réellement pour la personne de Dieu. C'est une attitude perverse qui corrompt toute affection pour Dieu. Les responsables religieux n'auraient jamais dû accepter un franc, un euro de tous ces gens qui trichent. Si eux-mêmes ne trichaient pas, ils n'auraient pas accepté un euro, un don de quoi que ce soit. Parce qu'en l'acceptant, ils ont aidé les gens à corrompre ce qu'il leur restait d'affection pour Dieu, d'affection possible. Ainsi, au fur et à mesure du temps, ce qui se montre, se démontre dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que leur relation avec Dieu est brisée totalement. On le voit. Par tout ce sectarisme, ces guerres, etc., ce fanatisme, on le voit. S'ils connaissaient vraiment Dieu, Il ne pourrait pas tuer un être humain, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il ne pourrait pas exercer le dépeuplement de toutes les grandes forêts du monde, exercer le développement de la famine. Il ne pourrait pas. Parce que leur relation est brisée avec Dieu, leur relation est brisée avec les frères et les sœurs sur la terre. Suis-je le gardien de mon frère, a dit Caïn, avec un toupet monstre à la figure de Dieu. Eh bien, c'est aujourd'hui ça. Une inconnaissance totale de Dieu est venue sur terre. Cette situation engendre quelque chose. C'est un processus de culpabilité. Chez l'homme, il y a une culpabilité, mais il ne sait pas d'où elle vient. Alors il faut qu'il s'évade. On fait de plus en plus de fêtes, il faut boire de plus en plus de chopes, il faut faire de plus en plus de voyages, il faut faire de plus en plus d'exotisme, il faut faire de plus en plus d'évasion. Parce qu'il y a un processus de culpabilité, d'errance, de vagabondage moral et spirituel que la personne ne voit ni la cause, ni l'origine, ni l'issue. C'est une perte de la bonne gouvernance de soi-même, mais de la bonne gouvernance de la terre. Dieu avait donné la responsabilité d'une bonne gestion sur la terre, sur la planète. Il avait donné cette responsabilité-là, sur les champs, sur les forêts. Mais c'est fini. Ce n'est plus une bonne gouvernance. Quand cette dame me dit, originaire du Brésil, me dit que 80 villes comme Bruxelles sont sans eau, que les poubelles sont dans toutes les rues, partout, et que celui qui veut de l'eau, le camion passe, mais il faut payer. Sinon, on ne paye pas, on a quoi? On n'a pas d'eau.
Dans quel pays, ça?
Brésil. 80 villes comme Bruxelles. Pas 80 villages comme Gomorrie. Alors, la bonne gouvernance de la terre, où est-elle? La majesté de l'homme que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit que c'était un dieu. Il était de peu inférieur à Dieu, mais il est de inférieur à quoi maintenant? Il est au plus bas. Il est au plus bas, et pas à cause de Dieu. L'homme maltraita la terre, et il n'a plus la maîtrise de la terre, ni de lui-même. Et en plus, l'homme perd son savoir-faire sur l'environnement. Qui sait encore dans nos villes, même dans nos villages, faire un jardin? Qui sait se plier sans dire j'ai mal au dos? Qui sait marcher sans aller faire de la kiné après parce qu'il a mal? L'homme perd son savoir-faire que Dieu lui a donné. L'homme a donc quitté le royaume de Dieu, qui est bonté, amour et joie selon le Saint-Esprit, pour entrer dans le royaume de Satan. Pour devenir membre du royaume de Satan. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Comprenez-vous pourquoi les prophètes vont s'envoyer par Dieu? Pour réveiller. 2 Corinthiens, chapitre 6. Versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles, donc ceux qui n'ont pas la foi en Christ, sous un joug étranger. Joug, oracle, parole. Hein? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Page
881.
Quel rapport y a-t-il entre la justice, donc c'est la sainteté, et l'iniquité, c'est-à-dire l'action délibérée de faire le contraire à la volonté de Dieu? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucun rapport, il n'y a rien de commun. Et pourtant, plein de gens le pensent, y compris dans beaucoup de responsables religieux sur la terre, qui amplifie le problème. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, donc Satan, Baal? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et moi, je ne parle pas comme un djihadiste, hein? Un wahhabiste, hein? Parce que l'infidèle, on sait très bien, hein? Il les massacre, il les rôtisse. Hein? C'est pas ça, ici. Toute cette parole est simplement brevée à conscience Quelle part y a-t-il entre le fidèle à... Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous n'avons pas de terrain commun.
Celui qui a la foi.
Celui qui a la foi en Christ. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Et le temple de Dieu, c'est qui? C'est nous. C'est notre cœur, notre vie habitée de Christ. Et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Donc nous sommes à quelle page dans la Bible? Parce qu'elle vient d'arriver.
881.
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alors, vous voyez le désir profond de Dieu. Le désir profond de Dieu, c'est de vivre avec nous. Le désir profond de Dieu, c'est la participation à une même existence. C'est une communauté de partage entre Dieu et l'homme, sa créature bien-aimée. Le peu que l'homme peut donner, c'est sa foi, sa confiance à Dieu. Il n'y a pas besoin d'argent, Dieu. Il n'y a pas besoin de puissance. Il n'y a pas besoin des artifices. Surtout pas des mensonges. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ces paroles-là, on les retrouve dans Ézéchiel, Jérémie, etc. Mais pratiquement, regardez-vous, séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Les amis, la prophétie, c'est ceci. C'est prendre conscience qu'on ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois. C'est prendre conscience qu'il faut s'engager dans le bon chemin. La vraie efficacité de la prophétie, c'est ça. Ma vérité vous sanctifiera, dit Jésus. Jean 17, verset 17. Ma parole est la vérité. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Dieu est tout accueil, Dieu est tout amour, mais d'une manière immense. Mais, les amis, il faut choisir de quitter le terrain du péché. Si malheureusement parfois on y retombe, il faut en pleurer et il faut s'élancer vers le Seigneur. Il faut vite se précipiter vers lui, qui nous accueille, qui nous donne plus de force contre le péché. Par soi-même, on n'a pas de force contre le péché. Je serai pour vous un père, regardez, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, réellement, finalement, après ce péché et sa perversion, le projet de Dieu est toujours maintenu. La preuve, c'est les prophètes. La preuve, c'est venu de Jésus. Le projet de Dieu est toujours maintenu. Dieu est fidèle à lui-même. Dieu est un père. Et nous sommes ses enfants. Donc, la parabole de l'enfant prodigue qui revient vers son papa, et le papa qui court vers l'enfant prodigue, c'est tout le message pour l'homme d'aujourd'hui, pour nous. Il faut faire attention, les amis. Il faut faire attention. Donc, actuellement, si vous voulez, quand la population est dans l'errance, dans les gros problèmes, qu'elle ne sait plus où est Dieu, elle ne sait plus parce que personne n'en parle sérieusement, elle est dans un processus de culpabilité, d'effondrement. Et ça, c'est encore un fruit du péché. Dieu n'a jamais demandé que l'homme vive dans la culpabilité. C'est le fruit du péché. Dieu a demandé qu'il vive dans la foi, dans la confiance, dans une relation avec lui. Et la perte de la confiance en Dieu donne la perte de la confiance en soi. Et donne la perte de la confiance dans les autres. Et donne la perte du pardon. On manque de pardon envers les autres. On manque d'humilité envers soi-même. Et tout le tissu vertueux que donne l'enseignement de l'Évangile n'est pas vivable sans un retour à Dieu. Il faut faire l'expérience d'un Dieu, d'un papa qui nous recueille, qui nous accueille, qui nous pardonne, pour pouvoir être à son image envers les autres. Alors, puisque l'homme est quasiment incapable de revenir à Dieu, eh bien, Dieu a envoyé quelqu'un vers l'homme, c'est Jésus. Jésus est venu vers les hommes, sans péché, d'abord dans le désert, il a résisté à Satan, ensuite il a résisté aux autorités religieuses mensongères, il a résisté au contentation que donne le peuple. Le peuple aime bien d'avoir du pain, des jeux, des autosatisfactions. Il a résisté à ça. Et puis il a porté, il a endossé le péché, la foutu péché de l'humanité sur le dos. Et il a été crucifié. Pour que ce péché soit crucifié. Alors, que veut dire la croix, les amis? Que veut dire la croix? Finalement, tous les prophètes et Jésus n'ont pas prêché un salut stupide. C'est pas une élévation morale et culturelle, et mystique, etc. Hein? Ce n'est pas un empoisonnement de l'âme, la foi. C'est pas une illusion, non. Regardons Abraham, il s'est présenté devant Dieu en demandant pardon pour ses péchés. Abraham a tout quitté. La sorcellerie, tout, les divinités et tout, l'argent, il a vécu avec son Dieu. Et il a été pardonné de ses péchés. En Genèse 16, verset 15, Dieu lui imputa sa justice à cause de sa foi. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ésaïe 53, comme un agneau sacrifié, il s'est présenté, il a porté nos péchés, nos iniquités. Alors Jésus n'a pas apporté un message humanitaire. Regardons qu'est-ce que a fait Jésus. Jésus n'a pas seulement apporté une élévation de la conscience. Parce que l'élévation de la conscience n'empêche pas au péché d'exister. Même chez un réveil spirituel où tout le monde est content, on est chrétien, ça va formidable. Ça dure 15, 20, 30 ans, 50 ans, et puis pan, toute la société retombe dans le péché. Parce que le péché n'est pas mort. Il est là. Donc le vrai réveil spirituel, c'est quoi? C'est pas la jouissance temporelle d'une amélioration de ma vie. Il faut, la religion classique néglige la vraie importance de la croix, de ce que la croix représente. Souvent, la religion classique a intégré les gens, beaucoup de gens qui avaient de l'amour propre, des clercs, des rois, des magiciens, même les petits, en flattant et en utilisant leur amour propre. Toute la religion fait ça. Mais même si ces gens étaient sincères, ce n'est pas la vérité. La sincérité, ce n'est pas la vérité. La croix de Jésus représente la mort. Ça représente la dépossession de la vie. Ça représente la fin de la vie sur terre pour Jésus. La croix, pour tous les prisonniers de l'Empire romain qui étaient crucifiés, ça représentait la fin de tout. De tout. Elle était brutale, elle était soudaine, elle était entière. Elle n'avait ni douceur, ni jouissance. Ni pour l'âme, ni pour le corps. La croix immolait tout pour l'Empire. Il ne restait rien de l'homme crucifié. Il n'existait plus pour l'Empire. Eh bien, Jésus n'existait plus pour le monde. Il était crucifié. Jésus-Christ n'existe pas aujourd'hui pour le monde. On ne peut pas l'assaisonner à nos manières pour le mettre à la sauce du monde. Le Jésus d'une église n'est pas à accommoder au monde. Parce qu'il a quitté ce monde. Il n'était déjà sans péché et il n'existe plus comme il était pour le monde. Il existe dans sa gloire. C'est un Dieu de gloire, c'est un Jésus de gloire qui vient dans les églises aujourd'hui. Ou il n'est pas dans l'église. Alors pour nous, pour que le Dieu de gloire, le Jésus de gloire soit dans l'église, si petite ou si grande soit-elle, il faut quelque chose qui se passe dans l'église. C'est que Dieu doit mettre à mort les pécheurs. Dieu doit mettre à mort tous les pécheurs qui sont dans l'église. Et il doit leur redonner une vie nouvelle. Le péché d'Adam n'a pas de place dans l'église. Nous ne pouvons pas venir en améliorant un petit peu notre vieille nature et en restant pécheurs. En pensant que c'est ça le chrétien. Il faut que le grain de blé tombe dans la terre, meure et donne un épi. C'est ça le chrétien. Si vous êtes chrétien, si vous voulez faire partie d'une église appartenant à Christ, il faut que vous mouriez à vous-même. que vous vous donniez entièrement Jésus, pour qu'une autre vie vous soit donnée par Jésus. L'Évangile ne fait pas de diplomatie avec notre chair. Il ne fait pas de compromis avec notre vouloir personnel. L'Évangile est toujours prophétique. Il pose toujours un ultimatum à mon péché. Mais il pose toujours une consolation. Je suis mort pour toi. Et tu as reçu mon pardon. Je te donne la vie. Courbez la tête sous la sévère réprobation de Dieu. Se reconnaître soi-même digne de mort et reconnaître que Jésus est mort à la croix pour moi. Courber la tête devant Jésus et lui dire merci, tu es mort à ma place. Alors la vie sainte, la vie dans le Saint-Esprit, proposée par Jésus, donnée par Jésus, succède à ma mort. Elle succède. Je renais à une autre vie. Dans ma foi, Dieu peut me conduire dans une autre vie. Il peut me conduire dans sa grâce pour vivre, pour penser et me comporter autrement. Celui, moi-même y compris, celui qui renonce à sa propre vie, à sa propre vouloir, à son propre amour propre, a en lui-même, par Jésus, reçu le pouvoir d'une vie nouvelle. La sentence de mort est tombée sur mon péché. La sentence de mort est tombée sur toutes les ruses de Satan qui venaient m'assaillir. Et je peux recevoir tous les jours la vie en Jésus. La prédication et l'évangélisation moderne communiquent la vie et la puissance divine au monde. S'il y a des jeunes gens, des jeunes filles, s'il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de Dieu, je pense que la prédication de vrai évangile, l'évangélisation avec la vraie croix de Jésus, donne la vie aux personnes. Mais il faut que les personnes qui écoutent acceptent de passer par la crucifixion de leur propre être. Il faut que ceux qui entendent l'évangile acceptent la crucifixion de leur propre « je ». Finalement, voilà ce que Jésus me dit. Veux-tu être baptisé en ma mort, à la croix? Veux-tu être ressuscité en ma vie, de ressuscité? Si je réponds oui, Seigneur, je t'appartiens. Je suis mort à moi-même, le jour que tu es mort à la croix. Le jour que tu ressuscites du tombeau, je suis né à cette nouvelle vie que je désire depuis si longtemps. Seigneur, oui, je suis ton enfant. Amen. Vous savez que tous les prophètes ont annoncé la venue du Messie. Tous les prophètes. Lisez Amos, vous verrez, il y a des passages qui en parle, très peu, mais enfin, et il faut comprendre, il faut lire, et ça vous donnera la paix, vous verrez, et on va faire Abdias dimanche prochain, assez étonnant d'ailleurs, Abdias.